Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Campus Anatomie, votre rendez-vous santé mensuel sur Radio Campus Amiens. Des infos, des conseils pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Alors aujourd'hui on s'intéresse à ce qu'on met dans notre assiette, zoom sur la profession de diététicien nutritionniste. Alors pourquoi des gens ont consulté, dans quel cas, comment manger équilibré, notamment quand on a un petit budget ou qu'on manque de temps. Que faut-il penser des différentes tendances alimentaires et régimes en tout genre qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux? Eh bien, on donnera bien sûr des informations, des conseils dans cette émission. Et pour en parler avec nous, on accueille Thomas Zirn, diététicien nutritionniste à Amiens.
Bonjour.
Bonjour.
On va évoquer plusieurs sujets ensemble. Je précise que vous avez notamment la particularité de collaborer avec le service de santé universitaire. Voilà, vous rencontrez régulièrement des étudiants. Et vous êtes aussi un handballeur professionnel, donc on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans cette interview. Alors déjà, il me semblait intéressant de voir ce qu'est votre quotidien, qu'est-ce qu'un diététicien nutritionniste. Alors ça fait 3 ans que vous êtes dans ce cabinet, hein,
c'est ça. 3 ans que je suis installé ici sur Amiens. Mon quotidien, en fait, j'ai la chance de faire plein de choses dans mon métier. Je suis au cabinet en fait le lundi après-midi, le mardi et le mercredi, parfois le vendredi. Sinon, le reste du temps, je travaille le lundi matin avec les pompiers. J'interviens au S10 dans le service santé et le jeudi toute la journée au service santé de l'université.
Et alors c'est quoi les motifs de consultation les plus fréquents quand on est diététicien, nutritionniste?
Aujourd'hui j'ai beaucoup plus, je pense que la grosse majorité c'est quand même des gens qui ont la volonté de perdre du poids. Après on peut avoir des troubles du comportement alimentaire, de la prise de masse musculaire également chez le sportif. Voilà, il y a pas mal de thèmes, donc il y a aussi des pathologies, notamment diabète, etc.
Voilà, donc il y a de la prévention et du soin, on peut dire ça comme ça?
Du soin, je sais pas, on est beaucoup de prévention, ça c'est sûr. Après, du soin, on va plus, oui, effectivement,
de
c'est un peu du soin dans
quoi.
Le sens, voilà, de l'accompagnement. C'est plus, on va traiter le surpoids qui est cause de pathologie, mais c'est pas réellement du soin, quoi.
Alors, dans votre profession, il y a le rééquilibrage alimentaire, les régimes alimentaires. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ces notions?
Le régime alimentaire, c'est un peu l'idée qu'on a de perdre du poids rapidement en suivant des programmes, finalement. J'ai du mal à fonctionner comme ça, parce que je trouve que ça ne marche pas vraiment dans le temps. Je préfère vraiment partir sur du rééquilibrage alimentaire, adapté à chacun en fonction de vos habitudes, parce qu'on ne mange pas tous de la même façon et que le corps ne réagit pas de la même façon pour tout le monde non plus, quoi.
Donc on vient vous voir à la fois pour faire un point sur ses habitudes alimentaires, voilà, retrouver un poids de forme aussi, retrouver aussi plus généralement le plaisir de manger certaines choses.
C'est ça, ouais c'est ça, on peut faire tout ça. Effectivement, l'équilibrage alimentaire c'est vraiment partir des habitudes de ce que vous faites vous et changer, enfin voilà, retrouver quelque chose de plus sain quoi. Et faire les meilleurs choix aussi, on peut faire des meilleurs choix au niveau des courses, des choix des repas, l'heure du repas aussi, essayer de structurer tout ça, quoi.
Et la notion de bien-être, elle est vraiment au centre de votre profession? C'est un terme qui revient souvent?
Ouais, j'aime bien la mettre aussi personnellement au milieu de ça, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir aussi, parce que le trouble du comportement alimentaire, il apparaît aussi, on mange aussi pour se déstresser, pour combler un petit manque autre part, quoi. Donc le bien-être, c'est la clé.
Alors comment ça se passe quand on reçoit un patient? Il y a d'abord une discussion sur son historique, ses envies, ses habitudes alimentaires?
Ouais, il y a une anamnèse, j'apprends à connaître le patient en remontant un peu dans le temps de ce qu'il a vécu, ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il aime. J'essaie vraiment d'instaurer une relation de confiance, il faut vraiment que le patient me fasse confiance, c'est important. Et ensuite, en deuxième partie de l'entretien, on rentre vraiment dans le sujet où on établit un peu ses habitudes alimentaires. En général.
Voilà, et donc le but c'est de mieux le connaître, tout simplement. Et après, donc il y a un programme qui est mis en place, il y a un carnet alimentaire aussi.
Tout dépend de la problématique. Si c'est sur une perte de poids, j'aime bien quand même avoir une semaine de ce que les gens mangent en fait. Ils vont m'écrire pendant une semaine ce qu'ils mangent pour qu'à la deuxième consulte on puisse vraiment travailler dessus. Après à la fin de la première consulte on a déjà corrigé une ou deux problématiques simples, hein. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de soda, imaginons, on va juste réduire la fréquence, la quantité, etc. Vraiment des choses très basiques, mais la chose la plus simple finalement qu'on peut enlever sans tout chambouler quoi, chez la personne.
Voilà, et sans culpabiliser aussi, c'est pas évident parce que là on vient ici pour parler un peu de soi, de ses habitudes alimentaires, et qui dit habitudes alimentaires dit aussi mauvaises habitudes alimentaires. C'est pas évident de se confier sur les petits... voilà, les petits abus qu'on peut faire.
Mais c'est pour ça que la relation de confiance est très importante. C'est pour ça que j'essaye pas du tout de culpabiliser. Même si quelqu'un revient me voir en deuxième ou troisième consultation et qu'il a pris du poids, à aucun moment il faut le culpabiliser parce qu'il n'est pas forcément responsable en fait. Le but c'est vraiment que ça se fasse vraiment dans la douceur et dans l'accompagnement et qu'on garde cette notion de plaisir sans culpabilité.
Ah, donc il y a la prise de conseil, la phase de prise de conseil, puis après l'application, c'est pas toujours facile, j'imagine.
C'est un gros travail sur soi, hein, le changement alimentaire, le changement tout court en fait, parce que c'est souvent très ancré, c'est souvent les habitudes alimentaires, ça date parfois de l'enfance, des réflexes que les parents nous ont inculqués. Donc oui, il faut travailler dans le fond, dans la forme, ça prend du temps. Et c'est vrai que ça demande un petit effort du patient parce que, en fait, je suis vraiment là en tant que coach, en tant qu'accompagnant, mais le vrai travail, il est fait sur soi, quoi.
Alors, donc, dans le cadre des actions que vous menez avec le SSU, le service de santé universitaire, vous rencontrez régulièrement des étudiants sur des consultations gratuites. Alors, est-ce que c'est une prise en charge particulière, le fait de rencontrer des étudiants, ou c'est comme tout autre patient?
Bon, je trouve que c'est des patients comme les autres. Après, ce qui est très intéressant avec l'étudiant, c'est qu'ils rentrent, notamment chez les premières années, ils rentrent en fait dans le monde où ils sont un peu seuls, où ils se débrouillent, où ils font leur première course, entre guillemets, hein, pas tous, mais où ils quittent un peu le cocon familial, où ils doivent se débrouiller. Et on voit qu'à ce moment-là, la transition, elle est importante en fait. Et c'est difficile de faire les bons choix alimentaires quand on a des kebabs partout, que c'est plus simple d'aller chercher ça en bas de chez soi, quoi. Alors, mais c'est un patient classique.
Ouais, qui dit étudiant dit souvent, bah voilà, petit budget.
Ouais.
Donc comment justement ne pas tomber dans la malbouffe, les plats préparés
Bah, je me dis que les plats préparés, ça coûte quand même cher finalement. Donc, quand on parle budget, c'est pas la bonne excuse, quoi. Un kebab à 5 euros, voilà, on peut donner des exemples, mais pour 5 euros, on a pas mal de choses en magasin, quoi. Je le mets souvent en avant dans les. En fait, le vendredi, on a un groupe d'étudiants avec qui on cuisine une fois par mois.
Ouais.
Et je fais des courses du coup pour un groupe de 15-20 personnes, enfin, souvent une quinzaine plutôt. Et en fait, on s'en sort entrée plat dessert pour 5 euros, quoi. Entrée plat dessert. Donc pour quelque chose d'équilibré, de bon, qui a demandé une heure de préparation. Entrée plat dessert, souvent c'est comme ça. Alors finalement, pour 5 euros ou même moins, on a le prix de. On n'a pas un kebab à ce prix-là, quoi. Finalement, on s'en sort, on peut s'en sortir, quoi.
Et on peut donner un exemple, je sais pas, de repas que vous avez cuisiné récemment.
On a fait une salade de boulgour avec de l'avocat, des œufs durs, par exemple. Ça, c'était voilà, en dessert avec du fromage blanc et des fruits frais. Et en entrée, qu'est-ce qu'on a pu faire tomates, enfin crudités, quoi. Ça, c'était dans l'ensemble, j'essaie d'équilibrer un peu de cette façon, quoi.
Donc la question, l'excuse du budget n'est pas forcément bonne. Après, il faut consacrer aussi du temps. Hein, faut se renseigner, faut être curieux, faut aller faire les courses, tout ça. Donc c'est plus le temps.
C'est clair que c'est plus cette notion-là qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent aussi, qui pour payer les études, ça prend du temps. Ils ont du temps, il faut qu'ils bossent aussi. Le conseil que je ressors le plus, c'est qu'à un moment, il faut quand même pouvoir manger et que l'astuce, ce serait de cuisiner, même si c'est qu'une fois, de cuisiner en plus grande quantité, d'avoir un peu des réserves dans le frigo finalement. C'est-à-dire que si on se fait des pâtes une fois dans la semaine, on peut en faire suffisamment pour deux ou trois repas, quoi.
Alors, je pense aussi aux fruits et légumes, c'est pas évident de les mettre dans notre alimentation quand on a peu de temps, quand on mange comme ça sur le pouce, le midi. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on pourrait donner
Je suis assez friand ou partisan, je dirais, du surgelé. C'est un produit qui est plutôt sain et qui se fait au micro-ondes presque. Donc, certains produits peuvent se cuire au micro-ondes, donc finalement c'est pratique.
Alors, quand on parle de régime, on pense souvent perte de poids, mais aussi des régimes alimentaires adaptés pour les pathologies, pour certaines pathologies. Vous recevez des patients justement qui ont.
Oui, ça m'arrive, ouais, notamment pour les troubles du. Enfin, le cholestérol, notamment, l'hypertension, on essaie de régler un peu ça. J'ai quelques diabétiques aussi. Après, il y a des régimes particuliers pour les sportifs, par exemple. C'est intéressant.
Ouais, justement, on y reviendra dans quelques instants. Bah là, on parle de régime, on approche de l'été. Tout le monde commence à parler de régime d'été, de perte de poids. Est-ce que déjà vous avez plus de patients qui viennent vous voir juste avant l'été, justement, pour faire un point sur leur alimentation?
C'est une période où il y a plus de monde, ouais. Ça et juste après les fêtes de Noël. C'est les deux périodes un peu où il y a le plus de monde. Notamment les étudiants aussi, c'est un peu étonnant. mais c'est pas forcément la meilleure période pour perdre du poids. Je veux dire, il faut commencer un petit peu plus tôt si on veut avoir son summer body, je dirais.
Le fameux summer body. Donc il y a, alors il y a voilà la notion de perte de poids. Après, le plus dur, c'est de pas en reprendre, l'effet yo-yo. Il y a aussi un accompagnement à faire là-dessus et des conseils à donner.
Clairement, c'est le principal problème des régimes justement qui sont faits 2 mois avant l'été et pour avoir un bon corps pour l'été, parce que après l'été c'est fini quoi, on fait moins attention. Le but c'est vraiment de s'y prendre un peu plus tôt, de le faire plus progressivement et d'arriver à l'été avec un poids, enfin d'arriver au poids de corps, au poids d'été finalement bien plus tôt dans la saison, dans l'année, et comme ça on peut vraiment gérer le poids après quoi.
Ouais, donc pas griller les étapes.
Ça prend
le régime
temps.
Express, on évite.
On oublie, ouais.
Alors justement, l'alimentation saine et équilibrée, c'est une des préoccupations majeures de notre société et plus généralement le bien-être aujourd'hui, ce qui donne une actualité fooding foisonnante dans les médias, sur les réseaux sociaux, avec des tas de tendances, de nouveaux régimes révolutionnaires. Justement, comment quand on est diététicien nutritionniste, on compose avec tout ça? Est-ce que, voilà, y a justement les patients, ils viennent nous poser des questions régulièrement là-dessus, comment on compose avec tout ça?
On le prend en compte parce que en fait, ça reste en fait, on se rend compte que c'est un vrai business, le régime. Y a des régimes miracles où ça dégage beaucoup de bénéfices parce que finalement, les gens sont friands de ça. Ils veulent avoir des résultats rapidement. On est obligé, nous, en tant que professionnels, de prendre du recul sur ces choses-là. Tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais et tout n'est pas à jeter. Mais il faut bien faire comprendre aux patients qu'un équilibrage alimentaire, ça prend du temps et qu'il n'y a pas de remède magique à la perte de poids, quoi.
Et donc ça fait partie de votre quotidien, vous devez suivre aussi vous-même un peu ces actus
Ouais, je suis abonné à plusieurs magazines, NutriDoc notamment, Cholédoc, des magazines un peu forcément bien-être, parce que ça permet aussi d'être à la page et de savoir un peu ce qui se fait, quoi.
Voilà. Donc en fait, on peut dire aux auditeurs de suivre effectivement ces actualités, mais de prendre quand même du recul, de prendre des conseils aussi à droite à gauche, justement, par exemple chez un diététicien, un nutritionniste, c'est important de vraiment prendre du recul sur ces pratiques qui peuvent être extrêmes parfois.
Ouais, ça mettra moins en péril leur santé, leur capital santé, et voilà, le professionnel est vraiment là pour accompagner le patient et pour faire en fonction du patient. Donc consulter un professionnel, pardon, ce sera toujours mieux que d'acheter une revue avec un régime préconçu, quoi.
Alors, notamment cette année, on a beaucoup parlé du régime cétogène. Voilà, c'est limiter la consommation de glucides. Donc c'est, alors étonnamment, donc c'est je vais résumer, c'est perdre du poids en mangeant gras mais en excluant le sucre. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre un peu les actualités sur ce sujet.
Alors c'est une pratique qui est beaucoup faite chez les bodybuilders, en fait.
D'accord, ouais.
Parce qu'effectivement, on perd beaucoup beaucoup de gras rapidement, on mange gras et très protéiné. Mais le corps, il est pas fait pour être en cétose, en fait. Donc c'est néfaste pour le cerveau notamment. Et ça provoque une grande fatigue. Ça, c'est un peu le problème du régime. Faut bien comprendre que les gens qu'on voit sur Instagram avec des corps parfaits, ils n'ont pas le corps parfait toute l'année, hein. Ils ont le corps parfait pour la photo. Ça a pris du temps et derrière, ça repart aussi vite que c'est arrivé, quoi. Donc le régime cétogène, il est plus néfaste que bénéfique. Et puis sur le long terme, il y a vraiment une prise de poids une prise de poids plus importante après ce régime qui est réelle.
Instagram, du coup, ça fait un peu du mal à votre profession, non?
Non, pas du mal, mais ça donne. Je trouve que c'est un peu utopique, c'est-à-dire que les mecs qu'on voit ou les nanas qui ont vraiment des corps parfaits, donc effectivement, ils travaillent tous les jours, c'est c'est du travail acharné, mais c'est pas adapté à quelqu'un qui bosse, quoi. Ça donne pas une vraie image du. Enfin voilà, je sais pas, c'est un peu comme quand on regardait les Stallone, les choses comme ça. C'est des mecs qui vivent de ça, hein, qui bossent de ça. Donc, faut pas se comparer à eux, c'est surtout ça.
Alors, dans l'actualité aussi, fooding, entre guillemets, je pense aussi, on a parlé beaucoup récemment de la société Feed, qui a fait beaucoup parler d'elle en commercialisant, je cite, un repas en poudre 100% équilibré. Donc, c'est dans une bouteille, hein, une bouteille qui est censée tenir, voilà, un repas entier, équilibré, avec tous les apports dont l'organisme a besoin. Alors je sais pas ce que vous pensez de ça, il y a eu pas mal d'articles sur le sujet.
C'est quand même finalement quand on met, le repas c'est de la poudre et on met quand même une grosse partie d'eau. Ouais. Finalement le repas, la base principale du repas ça va être de l'eau en fait. Alors qu'est-ce que je pense de Feed? Je trouve que c'est éventuellement un bon en substitution, pourquoi pas. C'est-à-dire si on n'a pas le temps de manger un midi ou deux, dans la semaine, pourquoi pas. Mais le faire à long terme, ça peut pas substituer l'alimentation classique, quoi. On perd énormément de nutriments quand même, ça reste de la poudre. Hein.
Ouais, puis alors bon, bien sûr, donc vous dites, voilà, on va pas le faire à chaque repas. D'ailleurs, on perd aussi un certain plaisir de
mâcher,
manger, de mâcher, de faire à manger aussi.
J'espère. Enfin, est-ce que social, on le perd aussi parce que ouais. On s'assoit plus forcément à une table pour manger, prendre du temps avec les collègues ou avec les copains pour manger, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi dans l'alimentation, le plaisir.
Et c'est étonnant parce que la bouteille, j'invite les auditeurs à regarder un peu sur Internet, donc ces bouteilles de poudre qu'on met dans l'eau, on l'a vu beaucoup dans des films d'anticipation, de science-fiction. Est-ce que c'est ça l'avenir de la nourriture ?
J'espère pas, ce serait triste, mais ça ressemble un peu finalement à l'alimentation que les astronautes ont, en fait, je dirais. C'est... Novateur, c'est vrai, hein, mais je pense qu'il faut pas tendre vers ça sur du long terme. Et j'espère vraiment pas que ça devienne vraiment l'alimentation d'aujourd'hui, quoi.
Allez, on fait une petite pause musicale dans ce Campus Anatomy avec le titre Manifeste d'Andrew Bird.
Coming to the edge of the widest canyon, my companions dear. I'm starting to question my manifest destiny, my claim to this frontier. I'm coming to the brink of a great disaster, and just has to be near. The earth spins faster, whistles right past you, whispers death in your ear. Don't pretend you can't hear. Don't pretend you can't. I can hear you tearing.
Say.
On est de retour dans Campus Anatomie, votre rendez-vous santé mensuel sur Radio Campus Amiens avec le diététicien nutritionniste Thomas Zierne.
Alors on parlait de, voilà, d'actualité, fooding, d'Instagram, tout ça. Il y a certaines personnes qui parlent de tyrannie alimentaire, vraiment l'injonction à bien manger. Voilà, les régimes comme le sans gluten, sans sucre, tout ça, enfin, qu'on voit beaucoup sur Internet, ça stresse certaines personnes. Je ne sais pas s'ils viennent se confier à vous, le fait de voir énormément de choses comme ça et de ne pas avoir aussi forcément le temps de tout digérer, entre guillemets.
En fait, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en me disant voilà, je mange beaucoup moins de produits laitiers parce que c'est néfaste, par exemple. Ou vraiment, ils sortent une information comme ça et ils se l'appliquent. Mais ouais. Faut bien comprendre que le sans gluten, c'est une vraie pathologie au départ, c'est une maladie cœliaque. Qui provoque des vraies problématiques. Donc quand on est cœliaque, on a des vraies douleurs, on a une vraie intolérance, quoi. Le produit laitier, c'est pareil. Il y en a qui sont vraiment intolérants à la protéine de lait, de lait de vache. Il y a des vrais symptômes, quoi. Donc ça me fait sourire quand je vois des patients qui viennent et qui me donnent une information comme ça, mais qui à côté mangent très gras, très salé, très très sucré. Après, c'est vraiment des modes de vie, des styles de vie que les gens s'appliquent. Alors le sans gluten, ça a l'avantage de devoir regarder l'étiquette, de faire attention un peu à ce qu'on mange. Donc mine de rien, il y a du positif de se l'appliquer parce qu'on change son mode de vie, mais c'est contraignant, quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut bien manger tout en restant gourmand?
Bah, j'espère. oui, j'essaie d'intégrer ça dans les conseils que je donne à mes patients. C'est le plaisir, c'est une notion très très importante qui empêche la frustration et la culpabilité. Donc être gourmand, voilà, l'objectif c'est d'essayer de choisir les bons moments pour l'être et de que ce soit pas tous les jours, quoi. C'est surtout ça. Mais
et s'il y a des conseils essentiels qu'on pourrait donner comme ça aux auditeurs en quelques mots, ça serait lesquels sur leur alimentation?
Faites attention aux calories vides, je dirais, avec les sodas, les choses comme ça qui apportent beaucoup beaucoup de sucre et finalement par rapport au plaisir c'est un peu démesuré. Faites attention, voilà, privilégiez plutôt les moments pour vous faire plaisir aux moments sociaux, c'est-à-dire quand vous êtes avec vos amis, avec votre famille, que c'est vraiment un moment de plaisir. Là, on a le droit de se faire plaisir en totalité. Après, je pense que les moments où on doit faire un peu plus attention, c'est quand on est un peu seul, ou enfin pas forcément en isolement, mais dans la vie de tous les jours, je dirais. C'est-à-dire tous les midis, tous les soirs. Voilà, c'est plus à ces moments-là qu'il faut un peu contrôler et se faire plaisir quand on est avec les autres.
Alors j'ai vu que vous aviez écrit quelques articles sur internet, notamment sur le sujet du petit déjeuner. Ça remonte, c'était il y a quelques mois, quelques années. C'était faut-il privilégier le sucré ou le salé? Du coup, je vous repose la question.
Tout dépend du goût. Ça, c'était vraiment la réponse. il me semble que j'avais fait ça pour un site internet, pour le site ZenQ. Alors le salé a un avantage d'être un peu plus riche en protéines et de caler plus sur la matinée.
Ouais.
Après, il y a beaucoup de patients qui n'arrivent pas à manger salé le matin, ils aiment leur sucré. Mais au niveau équilibre, je trouve que le salé, c'est super intéressant, si on le fait bien, bien sûr.
Ça serait quoi justement un exemple de petit déjeuner équilibré qu'on pourrait prendre
Salé, du coup?
Je sais pas, sucré ou salé
Donc sucré, je dirais par exemple un produit laitier, j'aime bien le mettre parce que justement il y a un peu de protéines pour se rapprocher un peu au salé. Fromage blanc, petit suisse par exemple, qui sont assez riches en protéines. Un produit céréalier, donc on peut aller sur du flocon d'avoine, sur du pain complet par exemple, ou même des biscottes, ça peut aller. Une petite touche de plaisir, type beurre ou confiture, éventuellement. Privilégier quand même le beurre, qui apporte un peu de matière grasse, et un fruit frais. Ça, on est plutôt sur un petit déj équilibré, quoi.
Alors souvent, les gens, ils ont peu de temps avant d'aller au boulot ou en cours pour se faire à manger le matin. Donc, ils mangent très rapidement, sur le pouce. Donc, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut leur donner
Oui. Alors, le petit déjeuner, c'est vraiment le repas à ne pas sauter. Ça, c'est vraiment...
C'est important de le rappeler, ouais.
Ouais, c'est vraiment le repas qui est le plus souvent sauté et qui déséquilibre du coup toute la journée, je trouve, sur ce qui ressort sur les consultations que j'ai pu faire. Du coup, la solution, c'est vraiment de prendre le temps de manger. Après, si effectivement on n'a pas le temps, de le décaler un peu dans la matinée. C'est pas grave si vous prenez votre petit déjeuner sur votre pause de 9h ou quand vous arrivez au boulot avec les collègues, avec votre café du matin. Parce que ça, c'est souvent... beaucoup de gens prennent le café, mais on n'a pas pris de petit déjeuner. Du coup, à ce moment-là, pourquoi pas prendre un fruit et un produit laitier, par exemple, avec son café, quoi. C'est pas gênant.
Alors, vous avez été handballeur très haut niveau, donc en première division,
oui,
avec Ivry. Vous le pratiquez encore à haut niveau, à la PH, c'est ça?
C'est ça.
donc c'est le club d'Amiens. Mm. Ouais. Et en tant que diététicien nutritionniste, vous vous occupez aussi de sportifs.
Ouais, j'ai pas mal de sportifs du coup, notamment grâce à ce que j'ai pu vivre en tant que sportif, je pense. J'ai des handballeurs, j'ai pas mal de crossfitters aussi, beaucoup de gens qui préparent des marathons qui viennent me voir.
D'accord, ouais.
Donc c'est très vaste en fait.
Et donc c'est des programmes très spécifiques pour chaque...
Ouais, j'essaie toujours de l'adapter à chacun, à ce que les gens font, mais sur les marathons par exemple, c'est des compétitions qui sont très ponctuelles. Du coup, c'est plus facile d'adapter un régime sur allez, une semaine, 10 jours avant. Quand c'est une compétition qui est plus régulière comme les sports collectifs, on essaye d'équilibrer plus, de façon un peu plus, de lisser un peu plus les prises alimentaires sur l'année, quoi. De faire un équilibre alimentaire vraiment.
Et comme sport et alimentation sont très liés chez vous, est-ce que vous vous permettez aussi de donner quelques conseils de pratiques sportives à vos différents patients qui viennent des fois?
J'essaie de pas mélanger les deux domaines, ouais, parce que j'ai du mal à... J'aime pas quand les coachs sportifs donnent des conseils diététiques. Ouais. Ils ont des notions, mais c'est pas pour autant que ça en fait des experts. Moi, je suis pas expert en coaching sportif. Après, si mon patient, il a envie de me montrer son programme et que je donne mon avis, je le fais. Mais je conçois pas, j'ai pas envie de mettre mes pieds là où je dois pas les mettre, quoi. C'est ce qui me dérange un peu à l'inverse, alors j'essaie de pas le faire.
Donc comme vous pratiquez encore le sport à haut niveau, j'imagine que vous avez des habitudes alimentaires très spécifiques, non?
Ouais, j'essaie de faire attention, j'essaie de calculer un petit peu ce que je fais, mais je suis pas dans l'obsession non plus. Hein. J'adore me faire plaisir, j'adore me faire des bons restos, et je trouve que l'alimentation, ça apporte beaucoup de plaisir et que c'est dommage de pas en prendre par l'alimentation. Du coup, je me restreins pas, quoi. Enfin, j'essaie vraiment d'équilibrer mes semaines, quoi.
Et en première division, quand vous étiez à Ivry, c'est en première division, donc c'est vraiment le top niveau. Est-ce que c'est encore plus contrôlé? Je ne sais pas si vous avez des conseils, des coachs ou vraiment des coachs spécifiques justement pour tout ce qui est alimentation.
Alors on était pesé régulièrement, une fois par mois. Après, on n'avait pas de vrais conseils, d'outils en fait. C'est-à-dire que même s'il y avait quelqu'un qui prenait du poids, il n'était pas vraiment encadré pour le reperdre. C'était un petit peu le souci. Mais je pense que c'est parce que ça demande un peu de temps et il n'y avait pas d'experts sur place. Ça coûte un peu d'argent aussi. Et le club n'avait pas spécialement d'argent à mettre sur la diététique. Mmh. Mais on a eu quelquefois des conférences de professionnels, d'experts de l'INSEP notamment, qui venaient nous faire des cours sur les nutriments, sur les choses comme ça. Mais il n'y avait pas de coaching par rapport à ça.
Et donc, pour faire des performances vraiment de haut niveau, c'est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée. D'ailleurs, on a vu des sportifs qui n'ont pas forcément un mode de vie très sain. Alors, je ne parle pas que de l'alimentation, mais en dehors du sport. Et du coup, ça peut avoir un impact sur leur performance sur le terrain.
Ouais, il y a un vrai impact par l'alimentation. Après, il y a le côté placebo aussi du truc. Qui fait que ça a pas. On peut très bien être performant une fois en ayant mangé le McDo le midi, il n'y a pas le problème. C'est pas. Il y a des exceptions, mais faut. C'est pas. Voilà, ça optimise vraiment la performance, notamment sur l'optimisation des stocks en glycogène. On le voit sur des efforts qui sont très longs. Les marathoniens, s'ils n'ont pas de glycogène, ils ne vont pas au bout de la compète, quoi. Pas au bout de la course. Donc il y a vraiment un impact sur la performance, ça c'est clair. Ouais. Et on le voit aussi sur l'hydratation pendant les matchs. Au bout d'un moment, quand on est déshydraté, on est beaucoup moins concentré, on a des risques de blessures, et ça, c'est réel, quoi. Donc oui, il y a un vrai impact de nutrition sur la performance.
Alors moi, je vais prendre mon très modeste exemple. Donc je cours deux fois par semaine. Alors qu'est-ce que vous pouvez me conseiller de faire avant et après l'effort? Qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que je dois manger juste avant? Est-ce que je dois boire pendant? Enfin, je sais pas, ça m'interroge.
Là, ça dépend de l'objectif de la course. Est-ce que c'est juste du plaisir? Est-ce qu'il y a un objectif de compétition? Est-ce que c'est de la perte de poids? Je ne sais pas.
C'est plus pour faire de la compétition, faire des courses de 10 km.
D'accord, ouais. Ok. Donc, il y a vraiment l'objectif de progresser pendant ces entraînements.
Exactement,
quoi.
Ouais.
Il faut essayer de respecter un temps de 1h30 entre un repas et la course, en fonction de l'heure. Si c'est un vrai repas, si c'est le déjeuner et que vous courez dans la foulée, essayez de garder un temps plutôt de 3 heures, quoi, sur les grands trucs. Sinon, si on n'a pas le temps de respecter ce délai, on essaye d'éviter tout ce qui va être protéines et on peut manger jusqu'à une demi-heure avant, plutôt sous forme de glucides, donc des pâtes ou à la rigueur même un peu de légumes, quoi, produits sucrés. Par contre, on évite les protéines qui mettent plus de temps à être digérées. Ensuite, ce que vous pourriez faire, c'est peut-être prendre une petite collation en post-effort, type produits laitiers fruits, ça marche plutôt bien, tout de suite après. Et après, dans la journée, voilà, ça permet vraiment de récupérer correctement, quoi.
D'accord. Voilà. Et alors, je sais pas si vous aviez des choses à ajouter, on approche de la fin de l'interview.
Je suis disponible le jeudi pour les étudiants à l'université, et c'est un service gratuit, donc c'est plutôt intéressant. Non, j'ai pas grand chose à rajouter. Du coup, je sais pas.
Et merci Thomas Zirn.
Merci à vous.
Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez vite retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Amiens. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Campus Anatomie. En attendant, prenez soin de vous.